Alors ce matin, donc le texte qui a été choisi par la commission enseignement biblique de notre Église, c'est 1 Corinthiens chapitre 2. Il y a 15 jours, Philippe a traité une bonne partie de 1 Corinthiens chapitre 1. Et ce matin, je vais parler sur 1 Corinthiens 2. Mais j'aimerais lire deux versets d'abord dans 1 Corinthiens 1. Donc je vais lire d'abord 1 Corinthiens chapitre 1, versets 23-24. Et ensuite, tout le chapitre 2. Il n'y a que 15, 16 versets au chapitre 2. D'abord, 1 Corinthiens 1, versets 23-24. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. Maintenant, chapitre 2, verset 1, Paul écrit, Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer des témoignages de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la sagesse de Dieu. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Et comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé, par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Alors, à première vue, il ne s'agit pas d'un texte très évident, on va dire. Mais nous allons regarder ce texte de façon très simple pour en retirer un enseignement pour nous, pour notre vie de tous les jours. Alors, avant de vraiment attaquer le texte, j'ai quatre remarques préliminaires. La première remarque, c'est qu'au chapitre 1, Paul souligne l'importance de la mort de Jésus, l'importance de la croix de Jésus. Et en même temps, il soulignait l'efficacité de la mort de Jésus. Il s'agit d'une manifestation de la puissance de Dieu. C'est curieux de penser que la mort de quelqu'un montre que Dieu est puissant. Mais c'est ce que Paul dit au chapitre 1 et il répète cette chose au chapitre 2. Ma deuxième remarque préliminaire, c'est que Paul connaissait l'Ancien Testament. Alors pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, c'est parce qu'à la fin du chapitre 1, Paul cite le livre de Jérémie. À la fin du chapitre 2 et au milieu du chapitre 2, Paul cite le prophète Ésaïe. À la fin du chapitre 3, Paul cite le livre de Job et aussi il cite le livre des psaumes. Et vous allez remarquer que dans toutes les épîtres de Paul et dans toutes ses prédications dans le livre des Actes, Paul cite l'Ancien Testament. D'une part pour appuyer ce qu'il dit, mais aussi il montre qu'il a appris par cœur des textes de l'Ancien Testament. Ce qui m'amène à me poser, à nous poser, à vous poser la question, est-ce que vous lisez l'Ancien Testament? Est-ce que vous avez lu l'Ancien Testament en 2020? Est-ce que vous allez lire des livres de l'Ancien Testament en 2021? L'Ancien Testament est aussi inspiré que le Nouveau Testament. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est utile. Troisième remarque. 1 Corinthiens chapitre 2 est un texte trinitaire, c'est-à-dire c'est un texte qui parle de la Trinité. Il est question de Dieu le Fils, appelé Jésus, le Seigneur Jésus, Jésus-Christ, le Seigneur de la gloire. Il est question de Dieu le Fils, il est question ensuite de Dieu l'Esprit, et il est question de Dieu le Père. Un texte trinitaire. Quatrième remarque. Il y a un thème récurrent au chapitre 2 qui est aussi présent au chapitre 1. Il est question de la sagesse. La sagesse est mentionnée 8 fois au chapitre 2 et j'ai compté 8 fois au chapitre 1. La sagesse humaine ou la sagesse divine. Au chapitre 2, il est question de la sagesse au verset 1, verset 4, verset 5. Verset 6, deux fois. Verset 7, verset 8 et verset 13. Pourquoi est-ce que Paul parle de la sagesse? Eh bien, c'est parce qu'il sait que par la sagesse humaine, personne ne peut connaître Dieu. Personne ne peut faire confiance à Jésus-Christ. Il insiste sur le fait que les intellectuels et les sages de ce monde ne peuvent pas comprendre la mort de Jésus. Ils ne peuvent pas comprendre l'efficacité de la mort de Jésus. D'ailleurs, il dit au verset 14, pour ces gens-là, que Jésus soit mort, c'est une folie. Il dit que ces gens-là sont incapables de comprendre la mort de Jésus. Il faut autre chose. L'éducation ne suffit pas, il faut une révélation. Et suite à cette révélation, ceux qui sont morts dans leur péché, comme nous avant notre conversion, ces gens-là connaîtront une résurrection, une vie spirituelle. Voilà donc mes quatre remarques préliminaires et cela nous conduit tout simplement au chapitre 2. Alors, que dire au sujet de cet écrit de Paul au chapitre 2? D'abord, Paul fait allusion à son séjour à Corinthe, versets 1 à 5. Paul n'était pas à Corinthe quand il a écrit, il était ailleurs. Et il fait allusion à son séjour, à sa visite à Corinthe, quelques années auparavant. Paul était arrivé à Corinthe dans Actes chapitre 15, juste après avoir été à Athènes dans Actes chapitre 17. Et Paul nous fait part de deux choses ici. Il parle de ses sentiments et il parle de son message à Corinthe. Quel était le sentiment qui a prédominé le cœur, la vie de Paul quand il était à Corinthe pour évangéliser? Eh bien, il parle de sa peur. Ma peur, j'étais tremblant, j'étais craintif, j'étais faible. Vous savez, Paul n'était pas un Superman. Il n'était pas un Spider-Man, un Spider-Man. Il n'était pas un super-héros. Il n'était pas comme Bruce Willis, Belmondo, l'agent OSS 117 ou même James Bond. Ils n'ont peur de rien, ces gens-là. Mais Paul était un être humain, un homme, et il savait que parfois, il avait peur. Il avait peur d'être mal reçu. Il avait peur d'être rejeté. Il avait peur d'être jeté en prison. Il avait peur d'être lapidé. Il avait déjà connu toutes ces choses-là. Et c'était logique qu'il ait peur. Je ne sais pas si il vous est arrivé d'avoir peur. Parfois, dans notre ministère, Brigitte et moi, on a eu un peu peur. Je me souviens, et Brigitte et moi, on en parle de temps en temps, d'une visite chez une sœur en Christ, nouvellement convertie. On savait qu'elle se faisait tabasser par son mari. À l'époque, on n'en parlait pas. Ce jour-là, on est allé chez elle pour une étude biblique. Elle était couverte de bleu. On a lu le texte, on a discuté, on a prié. On croyait que son mari était absent. Et puis à ce moment-là, quand on allait partir, son mari a ouvert la porte de la chambre. Il nous a invités à entrer dans la chambre avec lui, sans sa femme. Il a fermé la porte et, sachant que c'était un homme violent, un homme qui n'avait pas de temps pour Dieu ni pour les chrétiens, quand il a sorti son pistolet, on s'est regardé en disant, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, il voulait juste nous montrer son port d'armes et se vanter d'avoir un pistolet. Alors, est-ce que c'était un message subliminal pour nous, pour ne pas dénoncer son activité avec sa femme? Bon, bref, il peut arriver parfois dans la vie que nous ayons peur. Mais c'est normal. Et quand nous avons peur, nous devons confier notre peur au Seigneur. Et bien sûr, l'homme n'a pas utilisé son arme et par la suite, l'homme a changé d'attitude et il a même commencé à venir au culte, ce qui était remarquable. Paul était un homme donc normal, un homme qui avait peur parfois. Et dans ce texte, il parle aussi de son message. Il n'est pas venu à Corinthe avec un sentiment de supériorité, il est venu pour parler de l'œuvre de Dieu. Son discours n'était pas basé sur la sagesse humaine. Mais il est venu pour expliquer la puissance de Dieu. Paul n'avait aucune envie d'encourager les chrétiens à mémoriser par cœur les écrits philosophiques de son époque. Il était venu pour parler de Jésus, de la mort de Jésus. Même si les gens croyaient que c'était la folie, que c'était faux, que c'était ridicule, que c'était scandaleux, voilà les termes qu'il emploie au chapitre 1. Mais il vient pour parler de Jésus. Paul tenait à parler de, à, tenait, pardon, Paul tenait à parler de Jésus MMS, matin, midi et soir. Si Winston Churchill avait connu Paul à l'époque, Churchill l'aurait appelé un fanatique. Je dis cela parce que selon Churchill, un fanatique, c'est quelqu'un qui refuse de changer d'avis et qui refuse de changer de sujet de conversation. Et Paul parlait de Jésus. Il prêchait le Christ. Il prêchait le Christ crucifié. Paul parlait de Jésus. Et comme je disais, Paul parlait aussi de l'Ancien Testament. Parce que Paul voulait que la foi des chrétiens soit basée sur les écrits, sur la parole de Dieu. Ce qui compte pour Paul, c'est que la foi des chrétiens soit basée sur la parole de Dieu. C'est ce qui explique pourquoi il cite autant l'Ancien Testament. Ce qui compte pour nous, chrétiens, en 2021, c'est que notre foi soit fondée sur la Bible, la parole de Dieu, et pas sur des écrits philosophiques, pas sur des sentiments de bien-être, pas sur des gens qui font des crises d'extase, mais uniquement basée sur la parole de Dieu. En parlant de la parole de Dieu, j'ouvre une petite parenthèse. Vous avez remarqué cette semaine que Joe Biden a juré sur, avec une main sur la Bible. Eh bien, savez-vous que cette Bible sur laquelle il a mis sa main droite, ou sa main gauche peut-être, c'était une Bible en anglais, bien sûr, mais la Bible dite de Douai. C'était une Bible qui était traduite il y a plus de 400 ans. Du latin en français dans la ville de Douai, dans le nord de la France, là où habite d'ailleurs notre fils aîné. Et il a mis sa main sur cette Bible-là, une Bible dite catholique, parce que Biden est de confession catholique. Revenons donc à notre texte, la mort de Jésus. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai tenu à lire tout à l'heure les deux versets dans 1 Corinthiens chapitre 1. Eh bien, c'est parce que l'essentiel pour chaque Église est pas seulement d'avoir une foi fondée sur la parole de Dieu, mais chaque Église doit prêcher le Christ crucifié. C'était un principe capital dans la vie de Paul. Et c'est un principe capital dans la vie de notre Église ici à Sonora, Lyon 8e. Christ crucifié, Christ enseveli, Christ ressuscité. Il était une fois une assemblée générale d'une église évangélique en France. Puisque je dis « il était une fois », vous allez comprendre qu'il ne s'agit peut-être pas d'une histoire véridique. Lors de cette assemblée générale, il était question de trouver un texte pour résumer la croyance et les valeurs de cette église-là. Quelqu'un a proposé 1 Corinthiens 1, verset 23, et la phrase « nous prêchons Christ crucifié ». Alors, à la surprise de tout le monde a voté l'unanimité « oui, ça c'est notre texte ». Donc, ils ont fait graver ça dans du marbre et puis affiché au-dessus de la salle d'entrée de l'église. Comme ça, tout le monde qui est passé devant l'église voyait « nous prêchons Christ crucifié ». Avant l'Assemblée générale de l'année suivante, malheureusement, du lierre a commencé à pousser en bas du mur de l'église et ça, ce lierre a caché le mot « crucifié ». Donc, à l'Assemblée générale de l'année suivante, les gens pouvaient voir « nous prêchons Christ ». Alors, les responsables ont dit « quelqu'un va tailler le lierre et puis le mot « crucifié » va revenir ». Mais avant l'année suivante, personne n'a pris le temps de tailler le lierre. Donc, l'année suivante, un autre mot était caché, le mot Christ. Et les gens pouvaient voir, nous prêchons. Alors, à l'Assemblée générale, ils ont dit, ce n'est pas faux. Nous prêchons, nous enseignons, ce n'est pas faux. Bien sûr, l'année suivante, lors de l'Assemblée générale, il manquait un autre mot, le mot prêchons. Et il n'y avait que deux mots, nous, virgule, nous. Alors, quelqu'un dans l'Église a dit, mais est-ce que ça ne symbolise pas ce que nous sommes devenus? On ne parle plus de Jésus mort, on ne parle plus de Jésus, on ne prêche plus, on ne pense qu'à nous-mêmes. On est devenu égocentrique. Malheur à l'Église qui devient égocentrique. Malheur à l'Église qui ne prêche plus le Christ crucifié. Jésus a été crucifié. Il a été enterré, enseveli et il est ressuscité. Donc, revenons à notre texte. Paul parle de sa visite à Corinthe et puis il fait allusion à l'œuvre du Saint-Esprit de verset 6 au verset 16. Et il dit deux choses. D'abord, le Saint-Esprit nous révèle, nous donne la sagesse de Dieu. Quand nous avons besoin de la sagesse, nous devons demander à Dieu et par son esprit, il est toujours prêt à nous en donner. On a besoin de sa sagesse pour éviter des erreurs graves. On a besoin de sa sagesse pour vivre tous les jours. Paul dit même que les chefs religieux et politiques à son époque, ils avaient besoin de la sagesse de Dieu. Et bien sûr, les chefs politiques à notre époque, avec ce que nous vivons actuellement, ils ont besoin de s'humilier et de crier à Dieu pour sa sagesse. En ce qui concerne les chrétiens, bien sûr, Paul ici nous rappelle ce que Jésus dit dans Jean 16, que le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous dirige, le Saint-Esprit nous enseigne, il nous conseille, il nous avertit, il nous instruit. Et tout cela à travers la lecture de la parole de Dieu. Au verset 12, Paul dit que l'Esprit nous fait découvrir toutes les bénédictions, tous les bienfaits que Dieu a en réserve pour nous. Grâce à l'Esprit, dans notre cœur, on apprend la sagesse. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose que Paul dit dans ce texte par rapport au Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous sonde. Il dit que le Saint-Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Et par conséquent, le Saint-Esprit sonde et examine les profondeurs de l'homme. Le Saint-Esprit est dans notre cœur et il connaît notre cœur. Il n'a pas besoin de faire des radiographies, des échographies. Il n'a pas besoin de faire une IRM ou un scanner de notre cœur. Il voit notre cœur. Il voit là où nous en sommes aujourd'hui. Il voit ce à quoi vous pensez en m'entendant parler. Il voit ce à quoi vous avez pensé dès le début du culte. Il voit et il sait si vous êtes là physiquement ou si vous êtes là spirituellement à ce culte ce matin. Je vous rappelle les derniers conseils de David à son fils Salomon dans 1 Chronique 28, verset 9. David dit à Salomon, « L'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. » Ou dans un autre texte, « L'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs motivations. » Quelles sont les intentions de notre cœur? Quelles sont les motivations dans notre cœur? Est-ce que nos motivations plaisent au Saint-Esprit ou est-ce qu'elles déplaisent au Saint-Esprit? Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? C'est pour faire plaisir à notre voisin, à nos anciens, à nos épouses, à nos époux, à nos enfants, à nos parents? Ou est-ce que nous faisons ce que nous faisons pour faire plaisir uniquement à Dieu? L'Esprit sonde, scrute, examine notre cœur et il veut transformer notre cœur si nous le laissons faire. J'en arrive à la conclusion de ce message ce matin et la conclusion est tout simplement, nous avons besoin du Saint-Esprit tous les jours. Paul dit, nous l'avons tous reçu, il est dit aussi au chapitre 12, que si nous n'avons pas l'Esprit, nous ne sommes pas au Seigneur. Romains 8, il dit quelque chose de semblable. Nous avons tous reçu l'Esprit, mais nous devons nous laisser conduire, motiver, diriger par l'Esprit. Et dans le domaine du témoignage, nous avons besoin de la sagesse qui vient du Saint-Esprit. Nous connaissons tous des non-chrétiens. Nous leur parlons parfois. Nous ne devons pas les saouler, ça c'est sûr et certain. Mais lorsque l'occasion se présente, nous devons parler de notre foi, de ce qui nous anime, de ce qui nous motive à vivre tous les jours. Et pour le témoignage, on a besoin de la sagesse de Dieu. Lorsque nous sommes arrivés à Lyon il y a 8 ans, nous savions qu'on aurait un rôle à jouer en tant que témoin de la famille de Brigitte et d'Albert. Beaucoup de sœurs et de beaux-frères et de cousins de Brigitte et d'Albert habitent en Savoie. Et nous savions et nous prions à l'époque que Dieu nous aide à être des témoins auprès d'eux. Alors, il y a eu des occasions où nous avons pu parler de notre foi, où des membres de la famille de Brigitte nous ont posé des questions. Et j'aimerais partager ce qui s'est passé il y a quelques semaines seulement. Dans la famille de Brigitte, il y a Tonton Guy. Alors, Tonton Guy était un homme marié depuis plus de 60 ans avec Jacqueline. Jacqueline étant une petite sœur d'Albert, la maman de Brigitte. Et Tonton Guy était un homme qui était dur. Un homme qui était très sportif. Un homme qui faisait du canoë sur le lac d'Aix-les-Bains jusqu'au mois d'octobre. Et au mois de novembre, il a eu 90 ans. C'était une force de la nature. Et nos enfants petits avaient beaucoup d'admiration pour cet homme musclé qui, semblait-il, n'avait pas beaucoup de soucis dans la vie et qui n'avait pas visiblement besoin de Dieu. Lorsque nous rendions visite chez Guy à Aix-les-Bains, sa maison donnait sur le lac et sur les montagnes. Et il admirait la création, nous a-t-il dit. Et nous avons pu parler du Créateur de temps en temps. Nous prions pour lui et nous savons que pendant 40 ans, Albert a prié fidèlement pour cet homme et pour d'autres membres de la famille. La santé de Guy s'est dégradée rapidement au mois de novembre et au mois de décembre. Nous avons rendu visite à Guy juste avant Noël et aussi le 31 décembre. Il était chez lui, très malade, très faible. Il ne mangeait plus, il avait du mal à parler. Les 2 fois, j'avais mon Nouveau Testament de poche dans ma poche et j'étais prêt à lire et à prier avec lui. Mais L'occasion ne s'y prêtait pas. Il y avait d'autres membres de la famille qui étaient présents et je ne me suis pas senti à l'aise de dire, tiens, avant de partir, j'aimerais prier avec toi et lire un texte biblique. On a prié pour lui, Brigitte et moi, de notre côté, et on a prié que quelque chose se passe. Il y a 3 semaines, le dimanche 3 janvier, nous sommes rentrés du culte, Brigitte et moi, et le téléphone a sonné. Et c'était tonton Guy, hospitalisé depuis 2 jours. Lui ne parlait jamais au téléphone, mais il avait le portable de sa femme et il voulait parler avec moi. Et en parlant avec moi, il a fait part de ses interrogations par rapport à la mort, par rapport à Dieu. Il avait des questions. Il cherchait des réponses à ces questions. Qu'est-ce qui va se passer après la mort de David? Et pour la première fois dans sa vie, il était prêt à écouter. Alors, j'ai expliqué ce qui pourrait se passer après la mort. J'ai parlé, comme Paul ici, de la mort de Jésus, avec des termes simples. J'ai cité par cœur quelques versets bibliques et il était très, très attentif. Et j'ai dit, si tu veux, tu peux prier dans ton cœur. Et j'ai prié une petite prière tout simple en disant, si tu veux, tu peux répéter dans ton cœur pour que tu puisses être en règle avec Dieu. Alors, à ma grande surprise et à mon grand plaisir, à mon immense joie, il a prié à haute voix devant sa femme et devant moi, lui qui n'avait jamais prié à haute voix dans sa vie. Et il a prié pour demander à Jésus de pardonner ses péchés. Il a prié en disant, Jésus, je t'aime. En disant, Jésus, je te confie mon avenir. Tu sais que je vais mourir, mais je veux être avec toi. 3 jours plus tard, tonton Guy est mort. Sa famille m'avait demandé de faire la cérémonie d'obsèques que j'ai fait encore 3 jours plus tard, le 6 ou le 7, oui, le 9 janvier. Et lors de cette cérémonie, j'ai pu parler de la foi qui sauve, la foi dans la mort, dans la résurrection de Jésus-Christ. Dieu a entendu la prière de tonton Guy et Dieu entend la prière de chacun d'entre nous lorsque nous prions avec sincérité, lorsque nos prières viennent de notre cœur. Donc, pour terminer, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous aurions pu brûler les étapes avec tonton Guy il y a des années. Mais Dieu nous a aidés à ne pas faire des bêtises. Et lorsque le jour J est arrivé, tonton Guy était prêt, mûr et prêt à se donner à Christ. Que le Seigneur nous aide, les amis, à avoir sa sagesse dans notre vie de famille, à avoir sa sagesse dans notre vie de témoin et dans nos paroles et dans nos prières. Et n'oublions jamais, nous prêchons Christ crucifié. Folie pour les non-chrétiens, mais sagesse et puissance de Dieu pour nous, les chrétiens. Alléluia. Je vais prier. Notre bon Père céleste, merci d'avoir donné ton Fils. Merci d'avoir donné ton Esprit Saint. Seigneur, que ton esprit examine, scrute nos cœurs en ce moment même et nous montre ce qui ne va pas. Et que ton esprit nous donne la sagesse dans notre vie de témoin, afin qu'on puisse savoir quand il faut parler et quand il faut se taire. Aide-nous, Seigneur, à ne pas faire des bêtises ou dire des bêtises dans notre témoignage, mais aide-nous à être des témoins de l'Évangile et des témoins de Jésus-Christ. Nous te le prions en son nom et pour sa gloire. Amen.